Allô tout le monde! Une petite note de programmation avant cet épisode. Vous allez entendre des références à un épisode sur l'auto-évaluation et évaluation par les pairs. Nous avons aussi référé à cet épisode comme le cinquième, mais dans votre liste d'épisodes, vous voyez que nous ne sommes rendus qu'au quatrième. Alors, vous ne rêvez pas. Nous avons en fait enregistré un épisode sur l'auto-évaluation et l'évaluation par les pairs, mais à cause des petits problèmes techniques, nous ne pouvons pas le publier maintenant. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons l'enregistrer de nouveau et le publier dans quelques semaines. Alors, sans tarder, voici le quatrième épisode de notre série Évaluation sur les objectifs d'apprentissage personnel. Bonne écoute!
Nous sommes trois professionnels de l'éducation dans le sud de l'Ontario.
Mylène Brassard,
Vicky Fauteux
et Jennifer Davies. Puisque nous ne sommes plus titulaires, nous n'avons pas de classe.
Quoi?
OK. En effet, nous avons
toute la classe.
Nous allons vous proposer des épisodes sur des thèmes ponctuels en éducation, tels que la planification,
l'évaluation,
l'intégration de la technologie,
la persévérance
et bien plus encore.
Abonnez-vous dès maintenant et faites partie de la discussion sur notre page Facebook. Bonjour et bienvenue à cet épisode, épisode numéro 5 de la série sur l'évaluation. Et aujourd'hui, on ne va pas parler des résultats d'apprentissage et des critères de réussite.
Non. Mais alors, qu'est-ce qu'on va parler
d'apprentissage? OK, on va les mentionner. On ne va pas parler de la triangulation. On a fait ça dans épisode 2. Mm-hmm. On ne parlera pas de l'élément de l'évaluation qui me parle le plus, la rétroaction descriptive. Mm-hmm. Et on ne parlera pas non plus de l'auto-évaluation et évaluation par les pairs, sauf que on risque de les mentionner encore une fois.
Alors, on parle de fin de semaine?
Non, en fait, c'est la fin de la série. D'abord, si on parle de absolument rien de ça, à quoi va-t-on parler?
Nous allons parler aujourd'hui des objectifs d'apprentissage personnel.
Ma composante préférée en évaluation.
Oui, tout le monde en a une! Et puis, on va faire un petit retour sur la série avant de commencer à passer à d'autres choses, d'autres idées dans l'avenir. Alors, les objectifs d'apprentissage personnel, c'est pour qui, c'est pourquoi, c'est quoi l'objectif, qu'est-ce que c'est qu'un objectif d'apprentissage personnel?
Mais surtout, qu'est-ce que ça mange en hiver? Non, mais c'est important de savoir les petits détails, là.
Ben, l'hiver s'en vient.
L'objectif d'apprentissage personnel, pour moi, c'est ma composante préférée parce que c'est là où on se questionne et on fait part un peu là, d'une pratique réflexive sur ce qu'on a vécu, ben, en fait, l'enfant, là. Et après ça, qu'on cible des cibles plus globales que ce qui a rapport aux critères de réussite.
Là, si vous me voyez, vous allez voir que j'ai mes bras croisés, puis j'ai comme vraiment... Je suis pas contente parce que Mylène a dit exactement le mot que je voulais dire. Oh. C'est vraiment le mot global. Alors, les objectifs d'apprentissage personnel, pour moi, c'est vraiment, au lieu d'être spécifique à une tâche qu'ils ont fait, à une activité qu'ils ont fait, c'est quelque chose, je pense que ce sont des objectifs qui vont venir appuyer dans plusieurs différentes composantes de leur apprentissage, de leur vie. Comme par exemple, nous autres aussi, comme adultes, on a des objectifs d'apprentissage personnel qu'on va le réévaluer, qu'on va revoir probablement peut-être à chaque jour, peut-être à chaque mois, peut-être à chaque année, peut-être à chaque période de 5 ans.
Bref. Et si on ne parle pas là, des résolutions de début d'année?
Non. Ça, on ne les tient jamais. Là, fait que, de toute façon, ça, c'est des résolutions. Ben, bon, bref, ça, c'est un peu inutile. Alors, c'est pas que vous ne devriez pas en faire, mais fais-en. On n'est pas là pour faire le suivi pour nous, pour vous, par contre.
Mais là, tu es en train de me dire qu'on parle pas de critères de réussite aujourd'hui?
Mais je pense qu'on va aller les revoir. Ça fait partie du processus de se fixer des objectifs d'apprentissage personnel. Mais moi, je voulais faire le lien avant d'entamer avec ça entre ce que j'ai vécu sur l'heure du dîner, qui c'était pas horrible, c'était pas négatif, mais j'ai eu ma rencontre de plan d'amélioration professionnelle avec ma directrice. Et si vous êtes comme nous dans votre conseil, vous avez à faire la même chose en début d'année. Et je lui ai dit que je savais que j'avais choisi les bons objectifs parce que j'ai peur.
Oh oui. Ah, oh, intéressant.
Alors, il faut se stretcher un peu, il faut s'étirer dans les objectifs et il faut que ce, si je suis à l'aise avec mon objectif d'apprentissage personnel, ça veut dire que c'est pas assez ambitieux.
Encore une fois, ça me rappelle de toujours l'image qu'on nous a présenté plusieurs fois les années précédentes, c'est que on a le confort, le zone de confort. Après ça, si on sort de là, c'est là que la magie va se produire.
C'est beau.
Mais je lisais un article hier qui disait que si tu n'es pas en train de faire des erreurs, c'est que tu n'es pas en train d'essayer assez fort.
Mm-hmm. Voilà. Ouais, alors, pour les objectifs d'apprentissage personnel, c'est qui les fait? Comment est-ce que ça se fait?
Mais je pense que pour débuter, là, un enfant, comme j'ai dit dans un épisode précédent, là, c'est pas... ne naît pas avec la capacité de cibler des objectifs d'apprentissage personnel de manière acquise. C'est quelque chose qu'il faut apprendre, il faut que ça soit explicite, il faut que ça soit modélisé. Comment est-ce qu'on formule ça? Sur quoi est-ce qu'on met l'emphase? Mais avant de pouvoir porter un type de jugement comme ça, il faut que tu aies fait une évaluation de ton travail pour voir, OK, c'est quoi mes points forts? Mm-hmm. Où est-ce que j'ai des difficultés? Puis par rapport à ça, qu'est-ce que je veux améliorer? Puis ce que je veux améliorer, quelle stratégie je vais trouver que je vais mettre en place pour pouvoir atteindre cette cible-là?
Mm-hmm. Puis je pense que c'est vraiment... c'est vraiment en écoutant ce que Mylène vient de dire, c'est aussi... Je fais beaucoup de parallèles avec ce que nous, on fait comme adultes. C'est vraiment d'être capable de porter un jugement, de porter une objectivation sur ce qu'on fait déjà. Et après ça, être capable d'identifier où est-ce qu'on peut améliorer. Puis, évidemment, se donner d'encouragement aussi en disant qu'on fait déjà beaucoup de choses qui est bien. Puis après ça, être capable de repérer qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et après ça, de trouver les stratégies qu'on peut utiliser. Il me semble que je viens juste de répéter exactement ce que tu viens de dire.
Tu viens de dire, en fait, c'est que j'ai aimé que ce que tu fais de bien... Puis après ça, ce que tu as amélioré, c'est exactement la structure de la rétroaction descriptive.
Puis je trouve qu'en faisant ça, en fait, si en salle de classe, on veut essayer d'amener les élèves à établir des objectifs d'apprentissage personnel, on peut justement le modeler, puis on n'a pas besoin d'aller chercher très, très loin. On peut juste même citer les exemples que nous, on vit, puis essayer de modeler ça, de modeler. Et pourquoi pas faire le même parcours avec les élèves aussi?
Absolument, parce que nous, on se fixe des objectifs à tous les jours en fonction de, bon, dans ma leçon, voici le plan de ma leçon, nanana, mais l'objectif d'apprentissage personnel, encore là, comme on disait dans un épisode plus tôt, là, c'est la métacognition.
Mm-hmm. C'est ça. Puis je pense que l'outil le plus important pour se fixer un objectif personnel, c'est le portfolio. C'est de sortir le portfolio puis que l'élève regarde son évolution depuis le mois de septembre, mm-hmm. puis se dit, OK, dans tout ce que j'ai fait jusqu'ici, voici où j'ai un besoin de m'améliorer. C'est peut-être dans l'organisation de mes idées. Je n'organise jamais comme il faut mes idées. Ou c'est peut-être que j'aime pas la révision. J'essaie d'éviter de faire la révision à chaque fois. Ça, c'est mon point faible. C'est ça qu'il faut que je travaille.
Fait que de voir les régularités.
C'est ça. Alors, c'est pas vraiment un critère de réussite très, très pointu pour une tâche qu'on va cibler, mais c'est plutôt une compétence ou une stratégie plus globale qui pourrait nous aider à améliorer beaucoup de tâches qu'on fait, que ce soit en écriture, que ce soit en lecture, que ce soit en mathématiques ou autre.
Mmh. On dirait que c'est presque des habiletés que des fois, on appelle ça, c'est quelque chose qui est invisible, c'est quelque chose que tu vas pas être capable de voir tout de suite, mais que évidemment à travers l'épreuve, à travers tout ça, parce que l'organisation, c'est quand même quelque chose qui est un peu...
abstrait.
C'est ce qui est absolument abstrait. Alors, comme par exemple, moi, comme ce que j'avais dit tantôt, si nous, on peut aussi repérer nos objectifs d'apprentissage personnel et faire le parcours avec eux. Comme par exemple, je peux très bien dire écoute, madame, elle, son objectif d'apprentissage personnel, c'est d'oublier moins souvent son café. Tu sais, des choses comme ça, pour essayer de...
Alors... survie, quand on parle de survie, hein, on n'oublie rien.
Les non, petits non, détails. Non. Mais surtout pas le café. alors c'est ça. Que pour, c'est vraiment. On dirait que c'est presque des aspects qui sont tellement abstraits que souvent, on ne peut pas le vraiment voir comme très, très objectivement, mais qu'on va être capable de voir, justement, comme tu avais dit tantôt, en regardant les tendances, en regardant la progression.
Et peut-être à travers un questionnement de la part de l'enseignant aussi, une conversation.
Absolument. J'aime ça. Moi, j'aimais ça, dans le passé, m'asseoir avec mes élèves après la rédaction des bulletins. J'envoie les bulletins à la maison.
Mm-hmm.
Et la semaine après, je m'assoyais avec mes élèves un à un et je lisais le bulletin avec lui. Puis on se fixait des objectifs d'apprentissage personnels pour lui et pour moi. Quel est mon objectif d'enseignement pour cet enfant-là?
Absolument.
Puis on décidait ça ensemble.
Oui.
Puis on se faisait des petites notes, puis là on signait notre nom, comme quoi qu'on s'engageait à travailler là-dessus. Puis les élèves étaient en première année. Je veux dire, un enfant qui voit dans son bulletin que, je sais pas moi, au niveau des habitudes de travail et habiletés d'apprentissage, c'est difficile au niveau de l'autonomie, bien ensemble, on peut faire cette révision-là, c'est son nouveau résultat d'apprentissage.
Oui.
On fixe des critères de réussite ensemble par rapport à ça, puis ça devient son objectif à lui.
C'est ça.
Mais moi, je sais que cet enfant-là, pour pouvoir réussir, il va avoir besoin du soutien de l'adulte.
Il aura besoin de moi.
Puis moi, je peux savoir qu'est-ce que je peux faire pour lui permettre de réussir.
Et ça nous amène à ma prochaine question, qui est, une fois que l'élève aurait ciblé son objectif avec l'aide de l'enseignant, est-ce que ce serait à lui de trouver les stratégies pour se rendre là?
Mais s'il est capable de formuler ce qu'il a besoin, mais je veux dire, ça prend une certaine forme. Tu sais pas ce que tu sais pas. Alors, si l'enfant a une certaine maturité et il est capable de verbaliser ce dont il a besoin, tant mieux. Mais sinon, comment faudrait poser les bonnes questions pour qu'on puisse l'amener à réfléchir, mm-hmm. pour qu'on soit capable de tirer des conclusions ensemble sur ce qu'il nous dit? Mais s'il est capable, je veux dire oui.
Mm. Ouais. Oui, parce que ben, je dirais qu'un élève qui n'est pas bien organisé, est-ce que s'il savait comment s'organiser, est-ce qu'il le ferait? Alors, ce que je veux dire par ça, c'est que si l'élève ne réussit pas quelque chose, est-ce que c'est peut-être parce que lui, il ne connaît pas les stratégies et ce serait à nous de lui apporter ce morceau-là pour qu'il puisse se rendre à son objectif.
Oui. Mais c'est comme ça qu'on va essayer de le guider. On va essayer de le mettre sur le bon chemin, disons. Puis comme Mylène avait dit tantôt, ça dépend de la maturité de l'élève mm-hmm. aussi. Est-ce qu'il est capable d'identifier exactement quoi travailler? Alors sinon, est-ce que nous, en connaissant l'élève le plus qu'on peut, nous autres, on pourra proposer des pistes qu'il ou elle pourra essayer pour essayer d'arriver à son... pour essayer d'identifier son objectif d'apprentissage et aussi d'être capable d'y arriver.
Mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir faire preuve de pratique réflexive avec l'enfant puis voir, OK, les stratégies qu'on a ciblées ensemble pour atteindre ta cible, est-ce que ça fonctionne?
Mm-hmm.
Oui, on continue. Non, pourquoi? Qu'est-ce qu'on change? Est-ce qu'on devrait changer de stratégie? Je pense que... Puis ça... Je veux dire, si on ne s'arrête pas pour y réfléchir, on n'aura pas les réponses.
Mm-hmm.
Fait qu'il faut qu'on puisse porter un jugement aussi sur la stratégie qu'on a choisie. Parce que comme adulte, c'est pas un 10 sur 10, là. Il va y avoir des jours où on va choisir des stratégies pour des élèves en particulier et on va se planter.
Oui, c'est ça.
C'est correct, mais l'idée, c'est de revoir puis de s'ajuster par rapport à ça.
OK. Dernière question sur les objectifs d'apprentissage personnel. Moi,
toi,
moi, quand j'étais à l'école élémentaire, je ne me suis jamais fixé un objectif d'apprentissage personnel.
Tu vois, personne... je te regardais
ouais?
et je le savais.
Ça se voit sur mon visage.
Je peux le voir dans tes yeux.
Alors, si moi j'ai grandi sans cette stratégie et je réussis dans la vie, pourquoi est-ce qu'on ferait ça avec nos élèves?
J'ai envie de te dire pourquoi pas.
Mais je pense que c'est toujours dans le but de les amener plus loin. Pour moi, c'est vraiment ça. On peut très bien vivre notre vie sans avoir se fixer des buts, mais encore une autre fois, c'est de pouvoir être capable d'aller plus loin. Dans l'évaluation de la vie, c'est la différence entre un niveau 3 et un niveau 4. pas trop trop vous mélanger avec les toutes les évaluations, mais c'est vraiment comment bien réussir sa vie puis comment vraiment mieux réussir sa vie.
Si Mrs. Kingsley s'était assise avec moi puis elle m'avait demandé de faire des objectifs personnels d'apprentissage, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui aurait été le résultat ou l'impact de ça?
Je pense que ça devient des apprenants qui sont davantage investis dans leurs apprentissages parce que ils sont tellement au centre et c'est eux qui fixent leur propre cible. Je veux dire, comment plus au centre de son apprentissage est-ce que l'enfant peut être si c'est lui qui prend les décisions? Puis j'ai un document sous les yeux, le document du Centre franco-ontarien des ressources pédagogiques. Le fascicule 7 qui s'appelle Objectif d'apprentissage personnel et ça parle de, d'augmenter le sentiment d'auto-efficacité de l'élève et de savoir que l'enfant peut non seulement cibler ses points à améliorer, mais aussi choisir des stratégies, atteindre sa cible et refaire le processus. Ça fait des apprenants autonomes, puis je veux dire, ça c'est comme enseignant, c'est ça qu'on veut faire en fait.
Mm-hmm. J'adore.
Puis ce sont des habiletés qui sont tellement, tellement importantes puis mm-hmm. qui sont tellement précieux qu'on peut vraiment leur offrir.
Je suis complètement d'accord et je pense que c'est la raison pour laquelle on avait décidé de faire cette série sur l'évaluation parce que les changements qu'on a apportés dans la dernière décennie ont vraiment mis l'élève au centre. Puis ce qu'on a vu dans nos salles de classe, c'est lorsqu'on incorpore les résultats d'apprentissage, les critères, l'auto-évaluation, l'élève est tellement plus motivé et engagé. Ça peut tout changer en
salle de classe. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais je veux dire, l'enseignant qui est ancré dans ses vieilles façons de faire, là, parce que souvent, un enseignant, on va pas se le cacher, là, mais c'est quelqu'un qui a certaines... On va, c'est stéréotypé, là. Mais un enseignant, c'est quelqu'un qui aime être en contrôle, c'est quelqu'un qui aime être au centre de ce qui se passe. Et je veux dire, il y a certains types qu'on retenait chez beaucoup d'enseignants. Puis c'est difficile, la première fois que ta classe est complètement auto-efficace dans une tâche d'activité, parce que tout se fait tout seul, de dire que je pourrais disparaître et les élèves s'en rendraient probablement même pas compte, c'est difficile de dire en ce moment, il n'y a personne qui a besoin de moi.
Non.
Puis ça peut être difficile chez certains enseignants d'accepter le fait que, la vérité, c'est que ça dure 30 secondes parce qu'après ça, tu dis OK, je vais aller faire l'enseignement ciblé ici, je vais aller assister là, je vais aller poser des questions. Mais je veux dire, l'idée qu'on n'a pas besoin de toi, et qu'on est efficace dans la structure qui a été établie ensemble, pour certains enseignants, ça peut faire peur.
Bien, souvent, je pense aussi qu'on sous-estime nos élèves. Parce que si on n'a pas fait cet apprentissage, si on n'a pas fait cet enseignement, on peut facilement se dire, mes élèves ne seraient jamais capables de se donner des rétroactions, de faire l'évaluation par les pairs. Mais vraiment, si on y va étape par étape et qu'on commence à la base, vos élèves sont capables de le faire. Si les élèves de maternelle Jardin de première année sont capables de le faire, vos élèves sont capables de le faire.
Et puis les miens n'étaient pas spéciales, là. Je veux dire, si mes élèves ont réussi à faire ça, c'est pas parce que c'était une cohorte parfaite dans une école parfaite. Non, c'était une classe comme les autres, avec un prof qui était comme les autres. Puis c'est juste qu'ensemble, on a été capable de travailler ensemble puis de créer un environnement qui était propice à ça.
On n'est pas ici pour leur donner un procédurier étape par étape, comment le faire. On est vraiment de leur donner un cadre de réflexion pour comment y arriver. Puis que je pense que ce cadre de réflexion-là, ça les aide. Ça aide aux élèves, ça nous aide. Non seulement pour l'année en cours, non seulement pour notre carrière, non seulement pour leur carrière comme étudiant, mais ça va être comme élève étudiant, mais ça va être utile pour leur carrière d'adulte aussi. Alors c'est pas une recette.
Mais je vous encourage, si vous cherchez la recette, d'aller sur notre page Facebook et de consulter les documents du Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques qu'on a partagé là et ainsi que d'autres ressources.
Et si vous aimez les recettes, vous pouvez aussi en déposer sur notre page Facebook pour toute la classe. Oui. Parce qu'on aime manger, nous aussi.
Puis, juste une dernière chose, parce que là, j'arrête pas. Parce que là, je suis partie sur cette idée de recette-là. Puis les recettes existent tout le temps pour être adaptées. N'oubliez pas ça.
Ah, mais ça, tu dis ça parce que tu sais cuisiner, là.
Mais tu vois, ça, c'est une bonne réflexion aussi. Mais peu importe. Tu sais, il faut avoir une base, puis après ça, là, tu peux l'adapter de la façon comme tu veux.
OK.
Il y a ça aussi. Ouais.
Alors, on prend rendez-vous avec vous dans 2 semaines pour le prochain épisode qui portera sur toute cette question de l'évaluation, mais au cycle préparatoire avec nos jeunes de maternelle jardin.
Oui!
Et après ça, on commencera une prochaine série.
Si vous avez des suggestions, questions, commentaires, n'hésitez pas d'aller laisser des commentaires sur la page Facebook ou par courriel à pourtoutelaclasse.commercial@gmail.com. J'avais oublié l'adresse.
pourtoutelaclasse@commercial.gmail.com.
Voilà, Vicky l'a dit. Et si Vicky l'a dit, c'est parce que c'est vrai.
Au revoir.
Bye.
Merci d'avoir écouté l'épisode. Vos animatrices sont Jennifer Davies, Mylène Brassard et Vicky Fauteux. Un remerciement particulier à nos directrices des services pédagogiques au Conseil scolaire Viamonde. Le montage est fait par Vicky Fauteux. La musique est créée par Ralph Grant et enregistrée par les Productions Guérin. Les dessins du logo sont créés par Francis Fauteux et notre logo est créé par Mylène Brassard. À la prochaine! Thank you.